Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Bonjour Eric Tolenadomo, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique et obsessionnelle. C'est vraiment, je pense qu'on on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit, ça a déjà été fait. Bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terrains. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Tu vois, là, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Non, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
difficile? C'est la bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein. Et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer. Et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier. C'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'éditeurs qui vont le découvrir du coup avec le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en film. On a travaillé dans des mariages, on a fait Le Sens de la Fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait Nos Jours Heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux et on a fait Hors normes. Donc je pense que c'est des années sandwich de où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie, ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement de plan? Ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Et puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. Ah, pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. On peut dire les choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros, donc si vous voulez, ils savent aussi l'enjeu d'une journée de tournage et de scène à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer, de temps en temps on prend, de temps en temps on prend pas, mais oui, il est plutôt créatif et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif, c'est un peu comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi, il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Rizzi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne. Tout au long des films, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé.
Mon colonel, je peux dire.
Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois, vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
Oh, on se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre parce que on se sent proche de tous les personnages parce que on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire, on est la avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars. Je me dis, si j'étais dans sa situation, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture. C'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet sans essayer de les blesser? sans les blesser à aucun moment dans le film.
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc, on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il y avait plus de problèmes?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame, et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, ouais. Non, c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre, et mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants. Du pouvoir, il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense les que deux. Quand on hume bien, bien ouais. Quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Bienvenue sur Vibration.
Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies, doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time. And find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So it shouldn't be this hard. I'm all out of fight.
I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life, oh baby, it's killing me to say. I'm all out of love, I'm all out of life, I'm all out of fight. Oh, I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life, oh baby, it's killing.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Les défis de la parentalité.
Épisode 4. Aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave. Maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et que ils sont beaucoup plus sensibles à au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension de du langage, hein. Le bébé, c'est un être d'interaction, hein. Donc très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien et que elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce que il peut pas engager de relation. Donc très tôt, les enfants, comme ce sont des le petit humain, c'est un être de communication. Donc en fait, ils ne cherchent que ça, hein. Ils ne cherchent que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile, hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie, parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement, et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Et, mais que, il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que, comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. Ben, on est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt. Et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du, enfin, vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses, et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes très tôt. Les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche. Hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est... En fait, c'est multimodal. Hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit bah oui, aujourd'hui maman arrive plus tard, tout ça c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui d'un côté pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui il est toujours là, si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah il va avoir appris que, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel, et puis que on est, on grandit, on devient adulte, et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué, et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être, ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent, les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques, alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors, souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent, ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais... Il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Je crois qu'il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent bah non, on va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Bah finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. Bah, c'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, hein, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Hein, quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant, et surtout, éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ben oui, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Hein, si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. Ben, c'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Éviter les conflits de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école, alors vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont, à ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, ferme les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a
dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
On a
nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Le gros plan de la rédac. Mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 2.
La batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète ? S'il y a bien un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on parle de ces nouvelles mobilités, c'est celui de la batterie. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler, nous disent certains, et ça donne donc un véhicule en réalité beaucoup plus polluant que son équivalent thermique. Affirmation qui apparaît comme une vérité absolue pour beaucoup. Évidemment, tout n'est pas faux, sauf que la réalité est en fait un petit peu plus complexe. Commençons par aborder la question de la durabilité d'une batterie. C'est le point qui fait que certains acceptent ou pas de se tourner vers un véhicule électrique plutôt que thermique. Pourquoi ? Parce que la batterie coûte cher à produire et augmente donc considérablement le prix du véhicule à l'achat. Heureusement, la technologie avance plutôt vite. Avec elle, celle des batteries des véhicules. La conséquence directe, c'est la baisse de leur prix de 6% entre 2021 et 2022, selon un rapport annuel de Bloomberg. L'autre conséquence, c'est leur durée de vie. Pas besoin de vous affoler si vous souhaitez passer à l'électrique. Les batteries ont une durabilité qui peut varier de 10 à 20 ans avant d'avoir à les remplacer, d'après les estimations actuelles. Et c'est même le cas si vous utilisez votre véhicule électrique tous les jours. Prenons l'exemple d'une petite citadine, véhicule que possède Vincent Larnicole de la Fédération française des associations de véhicules électriques.
Moi, j'ai acheté ma Yon il y a plus de 10 ans, donc à l'époque, elle était garantie 50 000 km. J'en ai aujourd'hui 120 000, elle roule impeccable. Donc en termes de durabilité, au niveau des batteries, j'ai perdu un petit peu en autonomie, mais ça reste ça reste des voitures fiables. Et puis aujourd'hui, il y a Tesla qui annonce des batteries avec une autonomie d'un million de miles, je crois. Donc je pense qu'avec un million de miles, vous avez le temps de changer la carrosserie un certain nombre de fois. La technologie a énormément évolué depuis que moi j'ai acheté ma voiture. Aujourd'hui, on a des batteries qui sont fiables et qui sont durables.
L'autre question systématiquement soulevée quand on évoque les batteries des véhicules électriques, c'est le recyclage. Alors il est vrai que c'est aujourd'hui l'un des points noirs de ces nouvelles mobilités. Il est cependant aussi vrai de dire que la filière du recyclage existe déjà. Certes, elle est encore plutôt balbutiante et la raison est simple, le nombre de véhicules électriques en fin de vie est encore très faible.
Le recyclage aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet parce qu'il n'y a pas de batterie à recycler. Donc recycler une batterie de voiture électrique, c'est pas une difficulté. Il y a des entreprises qui sont en train de se mettre sur ce marché-là. Aujourd'hui, il y a les ventes de voitures électriques en masse sont quand même assez récentes. Donc il y a moi ma voiture que j'ai achetée à 10 ans, la batterie elle n'est pas encore à recycler. Donc qu'il n'y ait pas d'entreprise qui recycle les batteries, il y en aura lorsqu'il y aura des batteries à recycler, puisque les batteries en plus elles ont souvent une seconde vie. Une fois que elles ont perdu de l'autonomie, elles sont encore réutilisables dans des usages stationnaires où on peut utiliser des batteries vieillissantes.
Alors le problème, c'est qu'il va quand même falloir sérieusement s'y mettre un jour. Aujourd'hui, quand on parle de batteries de véhicules électriques, on considère principalement les batteries composées de lithium, un métal qui, en cas d'incendie, peut dégager des fumées toxiques et irritantes. Donc le stockage ne sera pas nécessairement une solution comme on peut déjà le faire pour les déchets nucléaires. Mais on vous rassure, beaucoup d'entreprises y travaillent aujourd'hui. Et parmi les solutions, il y a évidemment la réparation des batteries. Modèle qu'il faudrait d'ailleurs peut-être adopter de façon un peu plus globale dans notre quotidien, au-delà des batteries. Donc ça, c'est l'une des pistes qui est envisagée, mais il y en a d'autres. C'est ce que nous explique Frédéric Mourier, l'un des fondateurs du projet Avatar Mobilité, qui conceptualise en ce moment un petit véhicule électrique, aussi en mesure de se recharger tout seul. Même s'il admet que tout n'est pas forcément tout rose dans le recyclage des batteries, il reste optimiste.
Il y a des vraies questions à se poser et il faut se les poser, c'est important. Néanmoins, ça ne manque pas de solutions en face. On a déjà la possibilité effectivement de réparer les batteries en changeant des cellules qui seraient fatiguées et de redonner un second souffle aux batteries. On peut aussi, à partir de plusieurs batteries dites usagées, en refaire des neuves. C'est un petit peu la voie qu'on explore chez Avatar. On a déjà fait une batterie, par exemple, entièrement avec des cellules de récupération de seconde vie. C'est aussi choisir des chimies de batteries qui sont peut-être moins impactantes ou avec plus de cycles possibles. Néanmoins, c'est des sujets sur lesquels énormément de boîtes et de labos travaillent, avec des avancées régulières, presque quotidiennes, sur des batteries plus propres et de plus grande capacité, de moindre coût, etc. Donc il y a des vraies bonnes nouvelles qui arrivent. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut se désintéresser de leur réparation, réemploi ou recyclabilité. Et les trois volets sont vraiment à explorer.
Il existe donc bel et bien des solutions. Et heureusement, les entreprises du secteur y travaillent déjà. Maintenant, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que réussir à recycler n'importe quelle batterie électrique de n'importe quel véhicule restera viable d'un point de vue environnemental ? Est-ce que la batterie est le seul problème du véhicule électrique ? Eh bien, ce n'est encore une fois pas si simple. La réalité aborde même un point un peu plus philosophique. C'est un fait, le véhicule électrique est aujourd'hui notre meilleure solution dans un système qui reste, dans tous les cas, l'un des plus polluants qui soit. Mais cette mobilité peut vite devenir un non-sens à bien des égards, et notamment quand on parle du poids du véhicule. Aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à calquer le modèle du véhicule électrique sur son rival thermique, c'est-à-dire qu'on continue de produire des grosses voitures, comme des SUV par exemple, signe inconscient de réussite et de succès pour la plupart d'entre nous. Mais tout comme un véhicule thermique, un gros véhicule électrique est bien plus exigeant en termes de ressources. L'autre question à se poser désormais quand on pense nouvelle mobilité, c'est aussi notre rapport à nos déplacements. A-t-on vraiment besoin d'un véhicule qui permette de rouler vite et loin quand nos déplacements quotidiens ne sont finalement que de courts voire de moyens trajets ? Aurélien Bigot est chercheur sur la transition énergétique des transports. Et pour lui, ces interrogations, toutes liées à la batterie des véhicules électriques, sont même centrales.
Une grande partie des impacts environnementaux du véhicule électrique sont liés à la production de la batterie. Et du coup, on a intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus légers, qui consomment moins d'énergie, et des véhicules pour lesquels la batterie et du coup l'autonomie ne sont pas trop surdimensionnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules électriques qui sont vendus par les constructeurs, ça va être des véhicules électriques de 1,5 tonne, voire plus, qui vont avoir plusieurs centaines de kilos de batterie, et pour lesquels on va miser sur une autonomie de l'ordre de 300-400 km, etc. Alors qu'en comparaison, en fait, les besoins du quotidien, les trajets qui sont faits au quotidien, en moyenne, ils font 11 km de distance. On n'a pas forcément besoin de véhicules de 5 places qui vont jusqu'à 180 km/h avec 300-400 km d'autonomie, etc. Quand les trajets du quotidien sont souvent des trajets avec une, deux personnes à l'intérieur pour quelques kilomètres, sans qu'il y ait forcément besoin d'aller à 180 km/h. C'est possible sur aucune des routes en France, d'ailleurs.
Alors, que penser de tout ça? À la question, la batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète? La réponse est oui et non. Toute la question du recyclage et que l'on peut entendre dans toute conversation repose aujourd'hui sur son lot de clichés. La réalité est qu'effectivement, le recyclage reste l'une des principales problématiques des batteries, au-delà de leur production, mais la réalité est aussi que l'homme a toujours su s'adapter et qu'on travaille déjà sur cette question essentielle. Plusieurs alternatives s'offrent même déjà à nous, entre réparation, recyclage et même réutilisation de la batterie et de certains de ses éléments à des fins totalement différentes. Point que nous aborderons d'ailleurs dans un autre épisode de ce podcast. Il semble tout de même qu'aujourd'hui l'impact environnemental d'une batterie repose surtout sur l'utilisation que l'on en fait. Il semble nécessaire aujourd'hui de revoir notre rapport à la mobilité. Plus nos véhicules correspondront réellement à nos déplacements, mieux ce sera. Voilà pour la question de la batterie des véhicules électriques et hybrides, mais vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et de nos solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Chaque année, 3 millions de petits Français ne partent pas en vacances l'été. Pour essayer de pallier au problème, via le Secours Populaire, des familles bénévoles emmènent avec eux les enfants d'autres familles qui n'en auraient pas les moyens. Témoignage d'une maman, Sophie, qui a tenté l'expérience au micro de notre journaliste Michael.
Donc vous avez accueilli une petite fille parmi vous pour partir en vacances. Alors comment on prend cette décision, Sophie, d'emmener un enfant qui n'est pas de sa famille en vacances?
Alors en fait, moi, le Secours Populaire est rentré dans ma vie depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec eux il y a plus de 10 ans. J'étais étudiante à Grenoble, j'avais les grandes vacances scolaires et je me suis dit pourquoi pas les mettre à profit d'enfants défavorisés qui ne partent pas forcément. Et à ce moment-là, j'avais 23 ans et j'ai reçu pour la première fois une petite fille de 8 ans pendant 3 semaines. Et c'est là que j'ai trouvé le principe vraiment enrichissant et que j'ai maintenu dans le temps.
D'accord, ça vous a apporté humainement, on peut dire d'accueillir
oui, on peut dire ça, ouais, tout à fait. Ben, en fait, on donne beaucoup, on donne de notre temps, on donne beaucoup d'énergie en accueillant un enfant, mais au regard, tout ce que lui peut lui-même nous apporter est très fort et enrichissant. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inscrit dans le temps. Et c'est qu'au-delà des 3 semaines que nous avons passées ensemble, à l'issue, on aurait pu se dire bah, c'était bien, au revoir. Mais nous, on a souhaité maintenir dans le temps. Et aux vacances qui ont suivi, au lieu de recevoir un autre enfant, j'ai fait la demande d'avoir la même petite fille. Et ça fait 10 ans que je la reçois maintenant. Donc elle avait 8 ans, aujourd'hui elle en avait 18. C'était une petite fille, maintenant c'est une jeune femme. Et donc on a suivi toutes les étapes de son adolescence, de sa petite enfance. C'est des moments très forts. Donc on est très proches et on a l'impression de faire partie de la même famille maintenant parce qu'on se connaît beaucoup. Donc je trouve que c'est vraiment fort de pouvoir l'inscrire sur la durée.
Ça, oui, c'est plutôt bien. Vous êtes devenu un peu sa famille de substitution. C'est des amis, oui. Des confidents.
C'est ça. On dit ma reine de cœur un petit peu. Elle m'appelle comme ça. Oui, on peut dire ça. Et on a reçu sa petite sœur aussi parce qu'elle s'appelait Kepina. Elle a une petite sœur. Et quand elle a eu l'âge de partir aussi en vacances, on a pu la recevoir. Donc maintenant, bah, on a les deux qui ont maintenant 12 et 18 ans. Et quand on se voit, on se voit tout le temps, tout ensemble. Donc c'est des très bons moments,
ouais. Oui, il va falloir arrêter un moment parce que les locations, ça va commencer à être trop petit. Hein.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et là, on a renouvelé donc l'expérience cette année avec une nouvelle petite fille.
Avec la Tifa, c'est ça?
Voilà, la Tifa, tout à fait. Donc, on a quitté la région grenobloise où je recevais avant Kipina et Thaïs. On est en région parisienne et entre-temps, j'ai eu un enfant. Donc, on a une petite fille de 3 ans et on s'est dit que ça serait bien finalement de recevoir quelqu'un qui soit plus de son âge pour que notre fille aussi puisse avoir des échanges, se passer une nouvelle copine. Donc, on a rencontré le Secours Populaire qui est venu chez nous. On a beaucoup échangé sur nos souhaits, sur ce qu'on imaginait faire avec l'enfant, sur nos attentes. Et ils nous ont proposé donc le dossier de la Tifa, qui était une petite fille de 7 ans et demi, qui n'était pas partie en vacances, jamais, et qui habitait à seulement 30 minutes de chez nous. Donc ça aussi, c'est vital parce qu'on va pouvoir à nouveau se revoir.
Oui, c'est ça, vous aimez bien assurer le suivi avec les enfants
Ouais. Ben, je trouve ça dommage en fait que ça s'arrête parce que c'est tellement fort et intense pendant 10 jours que ça s'arrête, c'est dommage. Donc là on continue, elle est venue au mois de juillet, mais on s'est écrit, on voit les petites cartes postales, on s'est téléphoné et on envisage déjà de se voir pour les vacances prochaines. Donc j'aime bien qu'on se vienne et s'inscrit. Même par rapport à ma fille, aujourd'hui, parce qu'elle a que 3 ans, elle s'est attachée à la Tifa et elle me parle d'elle, elle la réclame, elle regarde des photos. Donc même pour elle, c'est important que le lien soit maintenu.
Oui, c'est sûr. Oui. J'allais justement vous demander comment ça s'était passé, l'adaptation entre votre petite fille et la Tifa, mais apparemment très bien. Hein.
Oui, ça a été très naturel. Les enfants, ils sont souvent étonnants. Ils font moins de freins que les adultes. Donc, ça a été très rapide. Nous, on avait bien sûr initié avant sa venue. On lui avait expliqué qu'une petite fille viendra à la maison, comment elle s'appelait. On s'était vu 2-3 fois en vidéo. On s'était téléphoné avec la maman pour se voir, pour s'entendre, se parler un petit peu. Comme ça, il y avait déjà un petit lien qui avait été fait avant la rencontre. Et puis, finalement, ça se passe très, très vite, quoi. La Tifa, elle s'est sentie à l'aise chez nous tout de suite. Elle a pris ses marques, elle faisait partie de la famille dès le premier jour. Donc ça s'est très bien passé.
Je voulais vous demander, vous avez encore une fois un peu répondu avant à ma question, c'est comment ça se passe aussi pour les parents de la Tifa. Il faut quand même apprendre un petit peu à se connaître. Enfin, moi, je sais que je suis papa et confier mon enfant à une famille que je ne connais pas beaucoup, c'est un pas quand même. Il y a une étape.
Oui, je suis d'accord, je vous rejoins, parce que moi-même, je ne sais pas si je pourrais confier ma fille comme ça. Mais en revanche, la maman donc, de la Tifa, on a échangé en amont, on s'est téléphoné, j'ai essayé moi-même de la rassurer, je me suis mis à sa place, tout simplement. Je l'ai rassurée, je lui ai expliqué ce qu'on allait faire, je lui ai dit qu'on avait déjà fait ça dans le passé. Et puis elle a aussi en soutien le Secours Populaire, qui fait ça depuis des années. Ça se passe toujours super bien, donc je pense qu'elle avait la confirmation par le Secours Populaire qu'il n'y aurait pas de problème et que tout se passerait bien et que c'était dans l'intérêt de la petite.
Oui, vous donc, commencez à avoir un peu d'expérience, c'est pour ça aussi.
Oui, c'est vrai, peut-être. Et on a, donc pendant la semaine, ils ne recommandent pas le Secours d'appeler les parents tous les jours parce que ça peut créer un petit manque, une petite mélancolie de l'enfant. Donc moi, j'ai envoyé des photos par message à la maman pour lui dire que tout allait bien et puis on l'appelait tous les 2-3 jours. Mais voilà, je la rassurais, elle me remerciait et puis ça s'est passé tout naturellement finalement.
Alors vous qui êtes une marraine chevronnée maintenant, quel conseil vous pourriez donner à des parents qui voudraient faire comme vous et donner un petit peu de bonheur à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances forcément chaque année ?
Oui, eh bien, je pense que c'est important de le faire pour les parents, les familles, mais aussi pour leurs enfants. Moi, je trouve que depuis qu'on le fait, depuis qu'on a notre petite fille, c'est encore plus fort parce que il y a des vraies valeurs qu'on essaie de transmettre, du partage, d'échange, de s'ouvrir un peu au monde qui nous entoure. Et donc, je pense que c'est important. Après, il faut dire à ces familles que le Secours Populaire est hyper présent. Ils nous accompagnent, ils nous recommandent. Ils font matcher les familles avec les enfants qui sont susceptibles de bien s'entendre, qui ont les mêmes manières de vivre. Et donc, je pense que tout se fait très simplement parce qu'il y a un accompagnement, il y a un vrai soutien derrière si on a des questions, des peurs. Et puis, il faut laisser la chance à la rencontre. Voilà, moi, c'est ça, en ça que je crois, c'est que il y a une petite étincelle qui se produit quand l'enfant arrive à la maison et ça marche toujours. J'ai pas entendu, par mes échanges avec d'autres familles, des avis, des retours négatifs, ça marche toujours. Quand on donne un peu de son temps et un peu d'amour, ça fonctionne. Donc, faut pas avoir de crainte, ni d'appréhension, ni de peur, ça marche bien.
La générosité, ça marche toujours, de toute façon.
Ouais, c'est vrai, je pense. J'essaie de inculquer ça à mon propre enfant, mais avec ce genre d'action.
Oui, elle est encore un peu petite, elle va apprendre.
Oui. Elle a quand même partagé ses jouets, c'était pas facile avant. Donner des livres, prêter ses jeux, donc c'est bien, elle apprend aussi.
C'est bien, c'est pour toute la famille. Parfait.
Oui, c'est vrai.
Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, vous pouvez vous adresser à l'antenne du Secours Populaire la plus proche de chez vous.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
tornado
in my city,
in
the basement.
That
shit ain't pretty. Rugged whiskey,
we're surviving.
A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice.
This ain't Texas,
oh.
Ain't no hold'em,
hey.
So lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus,
oh.
And throw your keys up. Come take
it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Toute la journée, votre dose de bonne humeur.
Bienvenue sur Vibration.